cette émission, en dépit de l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 18 février dernier, les hostilités n'ont pas cessé dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel publié vendredi 20 février, l'armée congolaise dénonce des attaques systématiques menées par la coalition AFC-M23 et les forces rwandaises RDF au nord et au sud de Kivu. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo, ces incursions armées ont eu lieu 24 heures après l'heure fixée pour le début du cessez-le-feu, torpillant ainsi les efforts diplomatiques du président angolais João Lourenço. Le communiqué de l'armée détaille plusieurs zones de combat où les forces spéciales rwandaises et leurs alliés auraient lancé des assauts le 18 et le 19 février. Au nord Kivu, par exemple, des attaques ont été signalées dans la localité d'Ioula, territoire de Walikale, ainsi que sur plusieurs collines stratégiques du territoire de Rutshuru. Les hostilités ont aussi touché les hauts plateaux de Fizi et Uvira, notamment dans les villages de Nikenge et Kalonge, dans le sud de Kivu. L'état-major général des FARDC réaffirme l'engagement de la RDC à respecter le cessez-le-feu tout en prévenant que l'armée ne restera pas sans réaction si les attaques contre ses positions et les populations civiles persistent. Quel tire faire du non-respect du cessez-le-feu initié par la République angolaise? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Willy Mishiki, le député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est président du parti politique Unana, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir honorable Willy Mishiki.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Bonsoir aussi à mon co-débatteur et mon frère Bissimoa.
Effectivement, Augustin Bissimoa, il est aussi avec nous ici au studio. Il est secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC en sigle, parti de l'opposition extra-parlementaire. Bonsoir Augustin Bissimoa.
Bonsoir Guy Matin, salut également à tous les Congolais, surtout à tous ceux qui souffrent dans la partie est du pays.
Et en ligne, Henri Pacifique Mayala, il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala. Henri Pacifique Mayala, est-ce que vous êtes là? Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, en dépit du cessez-le-feu annoncé pour le 18 février à midi, les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié vendredi 20 février, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, accusent l'armée rwandaise et ses alliés de l'AFC-M23 d'avoir attaqué plusieurs de leurs positions au nord et au sud de Kivu. Les FARDC dénoncent une violation de la trêve proposée par le président angolais João Lourenço et affirment rester engagés dans le respect du cessez-le-feu. Plus de détails avec vous, Grace Amzati.
Dans ce communiqué, les forces armées de la RDC affirment que leurs positions ont été attaquées les 18 et 19 février dans plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu. Des éléments de la force spéciale de l'armée rwandaise et des combattants de l'AFC-M23 ont mené des attaques simultanées notamment à Ihula, dans le territoire de Walikale, ainsi que sur plusieurs collines du territoire de Rutshuru. Dans le Sud Kivu, les FARDC accusent les forces armées rwandaises RDF, M23 et leurs alliés d'avoir attaqué plusieurs villages dont Mikenge et Kalonge dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, mais aussi dans les localités de Kahungwe, Kanga et Lugeje. Dans cette zone, 4 maisons ont été incendiées et un jeune homme de 18 ans tué à son domicile, précise le communiqué. L'armée congolaise estime que ces incursions visent à torpiller le processus de paix en cours. Tout en dénonçant ces attaques, les FARDC réaffirment leur engagement à observer le cessez-le-feu proposé par les médiateurs angolais en vue de faciliter le retour de la paix dans l'est du pays et dans la région des Grands Lacs.
Merci à vous, Grace Amzati. Willy Mishiki, vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes président du parti politique Unana, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Comment vous analysez la poursuite des combats en dépit de ces cessez-le-feu proposés par le président angolais?
Oui, nous avons une fois de plus été très déçus par les intentions malveillantes de l'armée rwandaise. Comme vous le savez très bien, ce cessez-le-feu d'abord a été très mal négocié. Vous connaissez très bien le rôle de Obasanjo dans à l'époque de CNDP, le rapprochement entre Obasanjo et Koundabatoire, à l'époque, j'étais moi-même présent à Goma, et même les accointances entre Obasanjo et le gouvernement de Kigali. Donc, la présence déjà de Obasanjo, ces jours-là, à Luanda, lorsque le chef de l'État a rencontré son homologue, ses homologues angolais et gabonais, était déjà une source d'infiltration. Nous, au niveau du gouvernement de la République, nous avons toujours été respectueux des engagements, et je vous dis ici, tout haut, que l'instruction a été donnée par le commandant suprême de FARDC et de la PNC pour que aucun acte de violence ne soit fait à partir du 18 à 12 heures. Qu'est-ce qu'il a été constaté? Le 18, même à 5h45 minutes, deux drones ont été largués sur Bikenge et autour de Point Zéro, puisque l'objectif de l'agresseur était de pouvoir récupérer le Point Zéro en vue d'avoir le passage vers Missisi dans les Fivi pour sortir par Kalemi. Il y a eu aussi des attaques similaires l'après-midi du 18, alors que le cessez-le-feu devrait être observé à partir de 12h, heure de Kinshasa, et 13h, mais à partir de 17h, de bombardements ont été aussi largués, des bombes à partir de Sangue et de Kamagnola vers des positions de Wazalendo dans les hauts plateaux de Fivi. Au même moment, le lendemain, le 19, dans mon territoire de Walikale, à Iula, près de Pinga, même à côté de Kalembe, d'autres bombardements ont eu lieu et même des attaques pour envie de récupérer la cité stratégique de Pinga. Nous avons fait rapport à qui de droit et nous déplorons, nous croyons sincèrement que aussi longtemps qu'on n'aura pas associé ceux qui sont sur la première ligne de front, notamment le Wazalendo, aucun cessez-le-feu ne pourrait avoir lieu. Rappelez-vous que plusieurs cessez-le-feu ont été annoncés depuis Doha, depuis Luanda, Washington. Aucun cessez-le-feu n'a tenu compte, puisqu'on n'a pas pris en compte les acteurs majeurs. Et je rappelle ici que les Wazalendo ne font pas partie du gouvernement. Les Wazalendo n'ayant pas été associés, ça pose des problèmes. C'est ce qu'on a constaté.
Et donc, autant on a consulté le M23 et le gouvernement congolais, autant on devait aussi consulter les Wazalendo.
Oui, puisque toutes les parties en conflit, les Wazalendo constituent, et c'est l'émanation de la population, c'est une force qui existait même avant que ce gouvernement ne soit là, même avant les FARDC. C'est une entité à part. Rappelez-vous que lorsque la communauté internationale a voulu rechercher la paix durable, on a prévu deux processus. Le processus de Luanda, où le gouvernement de la République devrait rencontrer le gouvernement rwandais, et le processus de Nairobi, où les groupes armés, notamment les Wazalendo et l'AFC M23, devraient rencontrer le gouvernement de la République. Mais par une baguette magique, le lendemain, nous nous sommes réveillés, on retrouve qu'on a déplacé le processus de Nairobi vers Doha, et seulement un seul groupe, une seule entité a été prise en compte, notamment l'AFC M23, en oubliant les Wazalendo. Alors que quand vous allez partout, si le front militaire, la première ligne de front, c'est les Wazalendo.
Et donc là, vous voulez dire que vous voulez attribuer la poursuite des combats aux Wazalendo?
Non, les Wazalendo ne sont pas concernés par les effets. C'est tout à fait évident. Je rappelle
ici,
ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été
attaqués.
Non, nous continuons à résister, nous résistons. Et lorsque nous sommes attaqués, nous réagissons. C'est ce qui s'est passé à côté de Biavanga, à Kabare. Avant-hier, vous savez ce qui s'est passé, c'est un des commandants Wazalendo qui était blessé, qu'on a amené à l'hôpital. Un infirmier infiltré a signalé à l'armée rwandaise qu'il y avait un Wazalendo, malgré que les patriotes de l'hôpital l'ont habillé comme si c'était une femme qui venait accoucher. Mais il y a eu l'infiltration à l'interne, jusqu'à ce qu'on l'a enlevé. C'est ce qui a poussé que les Wazalendo viennent là-bas et intervenir pour récupérer. Nous avons déploré des morts inutiles, dont 5 civils et 2 civils et 5 membres de l'armée rwandaise.
Voilà, les deux parties sont en train de s'accuser mutuellement, n'est-ce pas, d'avoir violé ce cessez-le-feu. des deux parties, à qui pourrait profiter la poursuite de combat, à votre avis?
De toute façon, la poursuite du combat profiterait au Rwanda, puisque Kagame n'a jamais voulu les cesser les faire, puisqu'ils ont des visées que nous connaissons. La démarche est claire. Tout cesser les faire ne profiterait pas à l'armée rwandaise, puisque ça leur permettrait de pouvoir aujourd'hui respecter toutes les résolutions des Nations Unies, de la communauté internationale, alors que leur intention n'est pas d'avoir une paix durable, leur intention c'est d'avoir la même base sur les ressources naturelles de la RDC, c'est clair.
Merci, merci Augustin Bissiwan, vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, parti de l'opposition extra-parlementaire. C'est quoi la lecture que vous faites du non-respect de ce cessez-le-feu qui a été proposé par le président João Lourenço?
Oui, permettez-moi d'abord de rappeler que je suis également coordonnateur national exécutif et au sein de la coalition de la gauche congolaise, dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabound. Et je suis chargé de la défense et sécurité parce que le MDVC est membre fondateur ou cofondateur de la coalition.
Merci pour
ça. Et donc, d'entrée de jeu, je me dis que si le cessez-le-feu n'est pas respecté, et donc il s'agit là d'une faiblesse criante de mécanismes de suivi. Et je me dis, dès lors déjà qu'il se pose un problème sérieux de mécanismes de suivi, cela va engendrer également l'absence de mesures contraignantes. Parce que s'il se dégage qu'on a signé ce cessez-le-feu, et il fallait aussi qu'on se dise sincèrement, oh, tout cela qui passerait outre, quelles sont les sanctions qui seraient infligées à ceux qui violeraient, n'est-ce pas, ce cessez-le-feu? Il n'y a pas de mesures contraignantes. Et là, nous disons sincèrement que là, et lorsqu'il n'y en a pas, on ne peut pas s'entendre à des résultats.
Également, et donc, pour vous, ce n'était pas une surprise, c'était...
Mais non, parce que déjà, nous, on se disait que dès lors déjà, que les mécanismes de suivi, vous avez vu, la fois passée, c'est seulement, je crois, il y a une semaine que la MONUSCO plutôt, a voulu descendre sur le terrain dans le sud des pouvoirs un peu. Mais je me dis que ces mécanismes ne suffisent pas, parce que nous n'avons pas vu, n'est-ce pas, les actions ou les mécanismes contraignants de façon à sanctionner ceux qui violeraient, n'est-ce pas, les cessez-le-feu. Également, sur le terrain, par rapport aux observateurs, est-ce que nous avons des observateurs neutres, capables d'identifier, n'est-ce pas, comme il se doit, qui y a fait quoi sur le terrain, et dès lors déjà, qu'on n'a pas réfléchi à ces mécanismes, on ne peut pas s'attendre à des résultats escomptés. Et il faut dire aussi qu'il y a un problème de manque de volonté entre les partis. Est-ce que les partis au conflit ont réellement besoin que ça cesse? Il ne faut pas oublier que non seulement que cette guerre a une dimension idéologique de nature à vouloir, n'est-ce pas, étendre les frontières, il y a également une dimension économique. Les entités, toutes les entités concernées, en tout cas, ils tirent profit chacune en ce qui la concerne. Autant le M23 et le Rwanda tirent profit parce que désormais, ils occupent un espace considérable, égal même à certains petits États. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'ils sont prêts à respecter ces cessez-le-feu avec tout ce qu'ils exploitent comme minerais dans les Roubaix et consorts, à qui ils vendent les minerais qu'ils sont en train d'exploiter? Est-ce que nous n'avons pas des facilitateurs qui, en même temps, sont peut-être consommateurs de minerais exploités? Est-ce qu'ils veulent aussi que ça cesse? C'est là que nous avons toujours interrogé les facteurs endogènes et exogènes qui entourent cette guerre pour la comprendre. Et si nous ne la comprenons pas, nous allons risquer en tout cas de taper à côté. Ça va prendre beaucoup de temps et c'est nous qui allons perdre des populations comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut aussi dire qu'il y a un problème parce que le gouvernement congolais, est-ce qu'il a le contrôle sur tous les groupes armés qui opèrent, n'est-ce pas, dans la partie est? Je me dis qu'il y a un problème par rapport à ça. Même si les gouvernements congolais, à travers les FARDC, peuvent dire « nous respectons les cessez-le-feu », il faut retenir qu'il y a d'autres groupes, évidemment, si lesquels le gouvernement n'a pas assez de contrôle. C'est là que nous, au niveau de la coalition de la gauche congolaise, avec Jean-Marc Kabound, on s'était beaucoup indignés lorsque ce gouvernement, pendant que le Conseil des Nations Unies a signé une résolution, 2773, qui voulait que le Rwanda quitte, du coup, au lieu de revendiquer la mise en œuvre, le gouvernement nous amène à Washington pour aller y signer un accord de paix avec le Rwanda. Et cet accord nous met maintenant, l'accord Doku, où nous avons accepté, bien sûr, que oui, nous avons des FDLR au Congo et que le Rwanda est venu pour poser ses mesures, n'est-ce pas, de défense. Et donc, à ce niveau-là, le gouvernement nous a tiré une balle dans la jambe et nous en payons aujourd'hui les prix. Alors qu'il était déjà dit que le Rwanda quitte le sol congolais avec ses troupes et du coup, le Rwanda n'est plus agresseur par rapport à cet accord-là. C'est là que nous disons qu'il y a un problème par rapport à ça. Et je suis choqué lorsque l'honorable Willy Mishiki dit que les Oisaleux ne sont pas concernés par le cessez-le-feu. C'est déjà un mauvais signe parce que l'honorable justifie de manière dangereuse, n'est-ce pas, la violation de cessez-le-feu et donne, n'est-ce pas, tant soit peu raison aux agresseurs de dire, voilà, ce n'est pas nous qui avons violé. Pourtant, nous nous sommes dit, au niveau de la CGC, que le M23 a violé le cessez-le-feu. Mais déjà, dès lors que Willy Mishiki, qui est même président de VDP Oisaleno, vous dit qu'ils ne sont pas concernés par le cessez-le-feu, alors que nous avons suivi sincèrement qu'il y a déjà la loi sur la programmation qui prend en charge, n'est-ce pas, le Oisaleno, et donc ça nous indigne à ce niveau-là. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois sincèrement, je continue à croire que le M23 viole le cessez-le-feu. Je ne tiens pas compte de ce que vient de dire honorable, sauf si il insiste sincèrement que les Oisaleno ne sont pas concernés par le cessez-le-feu et que c'est eux qui violent le cessez-le-feu. Donc voilà un peu dans un premier temps.
Au-delà de tout ça, est-ce que le président angolais était-il mieux placé pour proposer un tel cessez-le-feu quand on sait que il y a eu des cessez-le-feu qui ont été proposés à travers les mécanismes, notamment des Doha, mais qui n'ont jamais été respectés. Est-ce qu'il était mieux placé pour faire une telle proposition?
Non, mais écoutez, vous savez, j'ai toujours dit, lorsque vous affichez une certaine faiblesse, on va se jouer de vous, comme si vous étiez des pions des dames.
Là, vous faites allusion à qui?
Tenez, nous avons été d'abord au niveau de Luanda. Il y a longtemps, c'est là que ça commençait. Plutôt, ça commençait d'abord à Nairobi. Nous avons quitté Nairobi, nous nous retrouvons en Angola. On quitte Angola, on ne sait pas où on est en train d'aller où, et on ne sait pas où on est dans quoi exactement. Et comment on en arrive là? C'est parce que nous avons été incapables de mettre en place un système de défense cohérent qui puisse être dissuasif. Et comment on n'est pas arrivé à mettre en place un système de défense cohérent et n'est-ce pas, qui puisse imposer la paix? Et donc, c'est parce que vous avez suivi le ministre des Finances, l'ancien, qui dit, quand l'argent des projets entre, nous le partageons, et puis on va réfléchir après. Et donc, cela a dangereusement touché tant soit peu, n'est-ce pas, l'organisation des systèmes de défense. Et nous sommes en train d'en payer les prix aujourd'hui. Et donc, nous disons, João Lorenzo s'inscrit aujourd'hui dans la volonté de l'accord de Washington. Parce que pendant que nous, on était convaincus, comme l'avait dit Tshisekedi à un moment, les prêts publics, que je le dis ainsi, avaient dit que nous sommes agressés par le Rwanda. C'est à quoi nous avons cru. Et que le M23 n'était que pantin. Maintenant, quand nous sommes maintenant à Washington, qu'est-ce qui arrive? On nous amène à signer un accord avec le Rwanda. Mais Washington s'est dit, mais non, ça ne suffit pas. Il faut aussi signer un accord avec le M23. C'est que c'est Washington qui finalement nous a imposé une donne pendant que nous on avait déjà cru au discours pédagogique du président Tshisekedi qui avait dit qu'on ne peut pas compter sur le M23 parce que ce sont des pantins. Déjà, Washington nous amène dans cette idée-là et nous sommes sidérés de constater qu'on a dupliqué maintenant ce processus. Et voilà, on amène déjà à Doha pour que l'Union africaine aussi puisse accompagner le processus. Et je me dis que ça peut aller si la volonté d'en finir est là. Je vais peut-être y revenir pour vous montrer que les deux parties n'ont pas besoin que ça cesse.
Merci. Avant de donner la parole à Willy et plutôt à Henri Pacifique Mayala, honorable Willy Mishiki, vous allez faire une sorte de mise au point. Hein, parce que quand vous suivez Augustin Bissimwa, il semble dire qu'il y a une contradiction entre les communiqués des FARDC. Est-ce que vous dites?
Oui.
Les FARDC accusent, n'est-ce pas, les M23 d'avoir violé les cessez-le-feu. Mais quand vous parlez, quand vous analysez cette situation sur le terrain, vous dites que c'est plutôt les Oisaleno qui, parce qu'ils ne sont pas concernés, n'est-ce pas, par ces cessez-le-feu, qui ont continué à lutter. Et donc, vous voulez dire que vous n'avez pas la même position avec les FARDC?
Non, je voudrais quand même rassurer M. Bissimwa que les Oisaleno
ne font pas partie des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo, c'est une entité privée, c'est une émanation de la population. Donc l'engagement du gouvernement de la République, je dis bien ici, en tant que président du conseil d'administration du Wazalendo, qui représente 258 mouvements présents sur le terrain, l'engagement des FARDC, du gouvernement de la République, n'est pas notre engagement, nous. Et c'est là où je voudrais dire ici, je dis ici, je précise très bien que l'armée rwandaise, je la cite, ce n'est pas l'armée rwandaise a violé le cessez-le-feu. Le gouvernement de la République, depuis le 17 à minuit, du 7 février à minuit, a cessé tout appui et collaboration avec les Wazalendo. Et ça nous met mal à l'aise, je l'ai dit tout haut. Ça nous met mal à l'aise, parce que nous n'avons jamais écrit au CCLF. C'est ça la vérité sur le terrain. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Et l'erreur qu'a commise la médiation angolaise, c'est de ne pas associer toutes les parties au conflit. C'est une mauvaise approche qui ne va jamais payer. Je vous dis que le CCLF ne pourra jamais réussir si on ne prend pas en compte toutes les parties au conflit. Ici, j'insiste
donc,
beaucoup.
Contrairement à ce que
si les Wazalendo et l'armée rwandaise.
Contrairement à ce que les FARDC ont dit, c'est plutôt les Wazalendo qui ont violé le cessez-le-feu.
Les Wazalendo n'ont pas violé le cessez-le-feu. Nous ne sommes
pas concernés par le
cessez-le-feu. Nous ne sommes pas concernés par le cessez-le-feu. Mais lorsque nous sommes attaqués, nous réagissons.
Ils ont continué à lutter.
Nous continuons à résister. Nous résistons. Nous, on n'attaque jamais.
Et là,
nous,
ne donnez, vous ne donnez pas raison au M23 qui accusait la partie congolaise d'avoir violé le cessez-le-feu.
Mais justement, moi j'ai dit que les gouvernements, les FARDC n'ont pas bougé. Pas les 18 même. Elles n'ont même pas attendu. Les FARDC, depuis le 17 février, les FARDC observent les cessez-le-feu sur toutes les lignes de front.
C'est plutôt les Wazalendo qui se battent.
Les Wazalendo, et quand ils sont attaqués, ils se battent. Ils se battent bien sûr parce que nous ne sommes pas. Nous, personne, je suis le président du conseil d'administration, nous n'avons jamais été associés à ces cessez-le-feu. Si nous sommes attaqués aujourd'hui, nous réagissons.
Merci.
Mais nous n'avons jamais attaqué parce que nous résistons. C'est notre droit de nous défendre. Nous sommes chez nous, sur la terre de nos ancêtres. On ne peut pas nous laisser mourir comme des moutons de paniche qu'on amènerait à l'abattoir, non.
Mais j'espère que vous avez les mêmes objectifs que les FARDC.
Les mêmes objectifs que les FARDC, c'est défendre la terre de nos ancêtres. Ça, c'est d'accord. Mais nous avons été surpris que les FARDC ne nous apportent plus d'assistance. Et dans les opérations, même quand nous sommes attaqués, quand nous avons été attaqués, que ce soit les 18, que ce soit les 19, les FARDC ne nous ont pas soutenus.
Merci. Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Quel tir vous faites du non-respect du cessez-le-feu initié par le président angolais? Henri Pacifique Mayala, apparemment il n'est pas là. Henri Pacifique Mayala?
Oui, allô?
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Guy Mathieu, bonsoir au côté Pateur.
On n'a pas eu le temps de se saluer au début de l'émission. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Pour vous, c'est quoi l'analyse, n'est-ce pas, du non-respect des cessez-le-feu qui a été proposé par les présidents João Lourenço?
Merci encore Guy pour cette opportunité. De mon côté, de plus en plus, je nourris cette idée que l'ancrage de cette économie de la violence, l'ancrage de entrepreneurs de la violence persiste, hein, dans le sens où, comme vous venez tantôt de le dire, l'honorable Michiki, les Wazalendo ne se sentent pas concernés par ce cessez-le-feu parce qu'ils n'ont pas été consultés. Ça nous rappelle, hein, de l'histoire.
Allô? Voilà, apparemment, un problème avec la ligne de Henri Pacifique Mayala. Henri Pacifique? On est en train de les rappeler. Voilà, entre-temps, nous allons donner la parole aux auditeurs. Hein, et vous allez réagir, honorable Willy Michiki, à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, Jafet Eonga.
Japhet Yonga depuis la ville de Kinshasa. Ni n'est sans ignorer que ce n'est pas le premier cessez-le-feu à signer entre les deux protagonistes depuis Angola 1, Doha Issa, puis Angola d'aujourd'hui. Les deux parties au conflit ont peut-être un secret commun qu'ils sont en train de réaliser par la répétition de la même chose avec le même résultat plusieurs fois. Et je note ici la contradiction que ce soit des FARDC de vouloir respecter les cessez-le-feu tout en étant prêt à réagir à des éventuelles attaques, mais aussi des côtés FC M23, RDF qui signe 6 papiers puis attaque sur terrain. Ils doivent donc cesser de nous distraire et choisir soit le combat que les meilleurs gagnent, soit les uns abandonnent au profit des autres comme les FARDC par des replis stratégiques de Bounagana à Uvira actuellement.
Honorable Willy Misiki.
Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Yonga que l'agresseur rwandais n'a jamais respecté le cessez-le-feu. Et cela nous met très mal à l'aise, puisque avant même de respecter le cessez-le-feu, il fallait quand même des signes de bonne foi. Et parmi les signes de bonne foi, c'était d'abord le respect des engagements pris à Doha, les engagements pris à Washington. Rappelez-vous que jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ridicule de constater que une résolution du Conseil de sécurité, alors que lorsque vous lisez la Charte des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité s'imposent aux États membres. C'est vraiment regrettable de constater qu'aujourd'hui, la résolution 2773 n'a jamais été respectée par les Rwandais, puisque ça serait même un signe de bonne foi aujourd'hui. Si les troupes rwandaises commençaient même à se retirer, rappelez-vous même lorsque la médiation américaine est intervenue, on a demandé aux troupes rwandaises de se retirer d'Uvira, mais jusqu'à ce jour, depuis qu'ils ont dit qu'ils quittaient Uvira, les 18 effectivement, les 18 janvier, mais jusqu'à aujourd'hui, les troupes rwandaises ne sont jamais revenues à leur position initiale, qui est Kamanyola, à Walungu, à la frontière rwandaise. Elles se sont arrêtées à Sange, qui est le chef lié du territoire d'Uvira. Ce sont des signes qui ne trompent pas pour dire que l'agresseur n'est pas prêt à observer ce qu'il fait. Et lorsque on s'est réunis à Rwanda, j'aurais bien voulu voir là-bas les représentants du gouvernement rwandais, si pas le président Kagame lui-même. Parce que c'est lui le problème. Ce n'est pas AFC M23. Il n'existe pas de rébellion. C'est l'armée rwandaise qui nous agresse. Et Kagame l'a dit plusieurs fois. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas impliqué l'armée rwandaise, le président Kagame lui-même, les Wazalendo dans les chaussées de fait, je vous dis et je vous redis, il n'y aura jamais de respect de ces faits. On peut faire toutes les déclarations qu'on veut. Il faut être franc. On ne doit plus continuer à jouer la politique des chauves-souris. Les Wazalendo et l'armée rwandaise s'affrontent sur le terrain. Et si ces deux parties ne sont pas associées à tous ces faits, il n'y aura jamais de véritables faits armés démocratiques du Congo.
Auguste Messimo, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchoko, Alpha Dodé.
Maître Dodé Toela Tokinga à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Je salue la décision de l'armée congolaise qui d'une part fait preuve du respect des engagements pris et cela n'est pas la première fois. Mais aussi d'autre part rassure tenir la tête en cas de non-respect des mêmes engagements par l'autre partie en crise qui d'ailleurs reste agresseuse de la RDC. L'expérience au monde renseigne que les armes n'ont jamais donné de bonnes solutions aux crises tant internes aux nations qu'à celles entre les nations. Pourtant, ça être fort sur le champ des batailles. Il est difficile d'obtenir aussi une diplomatie juste, vu que dans toute négociation, le rapport de force inflige toujours sur la crise la prise en compte des conditions que chaque partie peut soumettre à l'autre. Une partie forte au front peut paraître plus capricieuse, trop exigeante que la partie faible sur le terrain. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Rwanda a toujours agressé la RDC avec l'idée d'imposer des dures conditions à la RDC en cas de négociation.
Oui, Augustin, mais c'est moi.
Non, je partage entièrement sa position et sa façon de voir les choses. Et parce que ce qui est vrai, ça fait très longtemps qu'on parle de cesser le feu. Et pendant le cesser le feu, l'ennemi s'organise et nous surprend. Et donc, lorsque vous analysez depuis que la guerre a commencé, et nous sommes toujours dans les replis stratégiques, et ça nous inquiète, nous. Et donc, vous êtes en face, comme l'a dit M. Daudet, et qui dit que lorsque, sur le terrain, il y a un problème par rapport à l'armée, et donc la diplomatie aussi va bégayer. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Bismarck lorsqu'il estime que la diplomatie sans armes est une musique sans instrument. Et on peut le constater d'ailleurs à travers les comportements des partenaires sur qui nous comptons. Nous étions inquiétés au niveau de la coalition de la gauche congolaise. Et lorsque le M23 et le Rwanda prennent Uvira, à quoi on a assisté? Un simple message a suffi pour que ces gens se retirent d'Uvira. Mais nous nous étions posé la question. Si nous avons signé, nous RDC, un accord avec les États-Unis et que cet accord est libellé, minerai contre sécurité, qu'est-ce qui a justifié que le poids, la taille des États-Unis comme notre partenaire justifie seulement que l'ennemi pouvait quitter Uvira, mais pas Bukavu, pas Goma et d'autres entités? Ça nous inquiète. Malheureusement, du côté du camp honorable Michiki, c'est la fête, qui disent non, désormais, ça suffit, avec Washington, ça suffit. Mais pendant que nous, on s'est dit, avec Jean-Marc Abonde, on s'est dit, mais écoutez, même si on a signé cet accord, mais il faut quand même qu'à l'interne, on soit prudent. Parce que nous ne pouvons pas maintenant croire que nous sommes les tout premiers partenaires des États-Unis et qu'après nous, quoi que ce soit stratégique, ils n'en auront pas d'autres. Ou ils n'ont pas besoin de développer d'autres mécanismes. Parce que nous l'avons toujours dit, qu'un chien ne grimpe pas sur les arbres. Et tout moi qu'un chien grimpe sur l'arbre, c'est qu'il y a un maître. Et c'est depuis longtemps que nous avons alerté au niveau du MDVC, avec le docteur Justin Mulikereza, que le Rwanda n'était qu'un chien de chasse. Mais maintenant, qui était le maître? Si le maître, j'ai dit bien, si le maître était les États-Unis, quel est ce maître qui va tout de suite là sacrifier son chien qui lui a toujours donné des morceaux en cas de gibier? Et donc, c'est ce qui justifie.
Et donc, pour vous, l'accord entre les États-Unis et la RDC, ce n'est pas une panacée?
Mais non, mais c'est déjà quelque chose. Mais nous devons maintenant réfléchir. Il ne faut pas qu'on reste en train de fêter, de dire que ça suffit, ou, voilà, la guerre est finie. Et même dans les discours diplomatiques, dans la tête de Washington, la guerre est finie. Et c'est ça. Mais malheureusement, nous qui sommes du Sud Kivu, et de la partie est en général, ce sont des morts que nous comptabilisons tous les jours. Et ça nous fait très mal. C'est comme ça que nous sommes en train de conseiller.
Vous, hein, les faits sont là.
Bien évidemment. C'est là voilà. Que nous conseillons une certaine intelligence, une sagesse et une anticipation. Est-ce qu'il faut nécessairement les respecter, c'est le fait pour entamer les dialogues? Nous disons non. Il y a aussi d'autres pratiques qui ne rassurent pas. C'est là que j'ai parlé d'absence de confiance entre les parties. Vous imaginez que pendant que nous voulons que les choses aillent très bien, les amis en face développent des discours qui énervent d'autres citoyens. Déjà, ils sont en train de réfléchir sur comment changer la constitution. Ils estiment que cette constitution elle est étrangère, cette constitution est dépassée, on ne travaille pas. Donc pendant ce temps-là, ils n'ont pas la notion d'opportunité. Ils se disent que bon, à tout moment, on peut toucher n'importe quel discours pour énerver les autres citoyens.
Mais aussi la mise au point que venait de faire l'honorable Willy Michiki, comment vous la trouvez?
Non, je suis d'accord avec lui. Lorsqu'il estime sincèrement que nous avons l'obligation de nous défendre. Parce que lorsque vous lisez l'article 74 de la Constitution, le président de la République a prêté serment. Et dans les discours de son serment, les messages sacrés, il parle... Il s'engage à défendre ou à maintenir l'intégrité du territoire national. Et donc, c'est une très bonne chose. Ce qui fait comment il va le maintenir à travers les moyens que l'État a mis à sa disposition, notamment les FARDC qui sont là comme... Parce que l'État a le seul qui a le monopole de la défense. Je suis sidéré pour finir de constater que l'on continue à compter sur la bonne foi du Rwanda. Et si nous sommes en face d'un régime comme ça, qui compte sur la bonne foi d'un pays agresseur, mais nous sommes désolés.
Merci.
Parce que jamais Ukraine ne va compter sur la bonne foi de la Russie.
Merci. Henri Pacifique Maëla, est-ce que vous êtes là?
Oui, monsieur Guy, je suis là.
Voilà, vous étiez en train d'analyser les non-respects du cessez-le-feu proposés par les présidents angolais. Allez-y.
Alors, je disais que c'est cette logique de l'ancrage de l'entrepreneuriat de la violence, dans le sens où les Oisalènes disent aujourd'hui qu'à travers l'honorable Michi, qui ne sont pas tenus au cessez-le-feu parce qu'ils n'ont pas été associés. Souvenez-vous que cela a été la rhétorique du M23 lorsqu'en 2024, si j'ai bonne mémoire, à la suite de la trêve humanitaire qui était imposée sur les parties au conflit, à l'époque directement le Rwanda et la RDC, deux semaines, 15 jours renouvelés deux fois, à la suite de quoi on est allé au cessez-le-feu, qui encore une fois a été décrété par l'Angola, je pense que c'était le 4 août. Le M23 avait repris les hostilités, disant qu'ils n'ont pas été consultés, ils ne sont pas engagés sur ce processus-là, et donc aujourd'hui, on justifie encore la reprise de hostilités des Oisalènes qui prennent la responsabilité, notamment parce qu'ils n'ont pas été consultés. Je trouve que pour moi c'est dangereux parce que à voir d'où nous venons, il y a eu Nairobi, c'était un cadre qui était supposé rapprocher les belligérants de groupes armés pour un éventuel dialogue. L'honorable Michi qui disait tantôt qu'on a été surpris de voir que ce cadre a été transporté à Doha, et nous tous nous savons que la surprise de Doha, on avait face à face le président Kabila et le président Kagame. Donc dire que le Rwanda n'a jamais été
Kabila, ou bien le impliqué... Pas le président Kabila, le président Félix Tshisekedi, pas Kabila. Vous avez dit le président Kabila.
Ah oui, désolé. Le président Félix Tshisekedi face au président Kagame. C'est comme ça que nous commençons Doha et c'est comme ça que le M23 se retrouve d'une certaine façon, lui face, en tant qu'entité maintenant, AFC-M23, face au gouvernement congolais. Dans l'entretemps, on va regarder tout ce qui se suit. Aujourd'hui, on est au-delà d'une douzaine des déclarations de cessez-le-feu, mais qui ne tiennent toujours pas. Alors, pourquoi? Pour moi, je me dis que tant que nous continuerons d'avoir des politiques dans ce pays dont la survie dépend de l'instrumentalisation autour des fibres ethniques et l'entretien de la violence, on n'est pas prêt de nous en sortir, monsieur Gu. Regardez, on a eu
allusion à quoi,
au niveau national.
Henri Patrice Mayala, essayez de vous expliquer un peu.
Je fais allusion aux initiatives locales internes que nous avons eues par le passé. On a eu le dialogue de Mouressa, qui a ramené la majorité de ces groupes armés actifs dans le Sud Kivu, pour qu'ils discutent et dont les résolutions principales s'étaient accordées sur le cessez-le-feu, l'arrestation des hostilités. Et à l'époque, le M23 n'est pas vraiment encore dans l'équation. Mais encore une fois, si les initiatives de Mouressa n'ont jamais tenu, c'est parce qu'il y a des opérateurs politiques à Kinshasa qui ont appelé encore une fois certains leaders au niveau du terrain pour que la logique de la violence persiste. Ça a été la même chose avec l'Ituri où nous avons eu plusieurs accords et pour parler entre différentes factions groupes armés au niveau de cette province-là. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de mourir, ce sont les frères à ces mêmes personnes-là qui se battent au sein des groupes armés, instrumentalisés par les personnes à Kinshasa qui, le seul projet politique ne tient qu'à la survie des groupes armés. Et cela torpille profondément les initiatives autant au niveau national qu'international, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre par quelle logique on peut vouloir dissocier la responsabilité des Oisalendo dans ce conflit actuel, soi-disant qu'ils ne sont pas concernés par les différents engagements auxquels serait tenue la République démocratique du Congo. Ça ne fait aucun sens, notamment parce qu'aujourd'hui, de la même façon qu'on ne peut dissocier le Rwanda avec le M23, dire que les Oisalendo n'ont jamais été consulter. Dire que le Ouazalendo ne font pas partie du gouvernement, c'est clair sur le papier. Dire que le Ouazalendo n'ont pas des responsabilités ou ne sont pas tenus à respecter les cessez-le-feu auxquels s'engage la République démocratique du Congo, c'est effectivement ne pas s'inscrire dans cette logique de la paix. Et malheureusement, la majorité de ceux qui font partie de ce groupe armé, ils ne comprennent pas cette instrumentalisation, et c'est là que ça craint.
Henri Pacific Mayala, longtemps que Henri Pacific Mayala. Et donc, quand l'honorable Willy Mishiki dit que la poursuite des combats profite au M23 au Rwanda, vous pensez qu'il n'y a pas que le Rwanda, les M23, n'est-ce pas, qui tirent profit de cette guerre? Il y a aussi certains acteurs politiques à Kinshasa qui voudraient que cette situation puisse, n'est-ce pas, perdurer, c'est ça?
Et c'est eux qui sont les plus dangereux, parce qu'au même moment qu'ils militent pour leur propre survie sans pour autant vouloir se salir les mains, ceux qui en payent le lourd tribut, ce sont les populations civiles innocentes. Et la logique de la crise persiste. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ceux qui défendent la soi-disant position de Ouazalendo, si on leur pose la question de savoir comment est-ce que les Ouazalendo se sont armés, comment est-ce qu'ils sont maintenus, c'est une question qui est toujours restée vague, mais on n'en est plus là parce que désormais c'est un secret de polichinelle. Et pour moi, je pense qu'il faudrait d'une très bonne volonté politique d'une part, et ça c'est du côté congolais autant que du côté rwandais, mais aussi des médiateurs ou des garants des différents accords et processus de paix en cours, de se pencher beaucoup plus et davantage sur des mesures coercives, autant sur le Rwanda que sur le Congo, notamment par une bonne réforme du secteur de la sécurité, un dialogue interne qui aiderait aussi à alléger les problèmes qui sont en lien avec le fond de cette crise qui maintenant dure 30 ans, parce qu'après aussi le présenter comme étant juste la résurgence du M23 serait un raccourci. Donc pour moi, revoir tous ces problèmes-là du côté congolais et imposer des sanctions sincères et auxquelles il faut tenir du côté rwandais apporterait une sorte de un certain espoir aux populations civiles, aux populations.
Et donc, Henri Pacific, il est tout à fait logique que les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir violé les cessez-le-feu.
Tout à fait, et ça nous savons que c'est factuel. Au niveau du baromètre sécuritaire du Kivu, nous documentons les faits, les incidents sont là, autant il y a eu violation des cessez-le-feu immédiats du côté congolais. C'est vrai qu'à un certain moment, les efforts des cessez-le-feu sont retenus et ont respecté les cessez-le-feu, mais par proxy, il y avait toujours des hostilités qui étaient déclenchées par le Ouazalendo. Vous vous souviendrez, les frappes aériennes du 15 octobre, c'était le même jour qu'on signait l'accord de paix entre le gouvernement congolais et le M23 à Doha. De la même façon, le M23 a été aussi à la base des violations à multiples reprises de cessez-le-feu, et ce, depuis 2024, ou peut-être même un peu avant cela.
Henri Pacific Mayala, vous gardez toujours la parole. Hein. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui intervient depuis la ville de Goma, dans le Nord Kivu.
Bonsoir à notre invité du jour et à tous les auditeurs de la radio Okapi. Gloire Ntangano, j'interviens à partir de la ville volcanique de Goma. Les précédents échecs de cessez-le-feu dans la région nourrissent une méfiance généralisée. Les partis doutent de la sincérité de l'autre et cherchent à consolider leur position avant toute négociation durable. L'absence de mécanismes robustes de vérification et de sanctions rend le respect du cessez-le-feu aléatoire. Mais à cela s'ajoutent les conséquences diplomatiques, notamment le non-respect de la trêve qui fragilise les efforts du président angolais João Lourenço, qui tente de s'imposer comme médiateur régional. Cela met aussi en lumière les limites des initiatives bilatérales ou régionales sans soutien plus fort de la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, mais aussi la CIRGEM.
Henri Pacific Mayala, votre réaction?
Je suis en parfait accord avec notre compatriote Gloire. Et ça ramène encore à l'esprit la question que j'ai toujours posée ici. Pourquoi la République démocratique du Congo continue de signer des accords et des engagements qui ne lui sont pas favorables? Vous vous souviendrez du, on en discutait encore ici, au mois d'août 2000, au mois d'octobre 2024, lorsqu'on signait à Rubavu, à Gisenyi, au Rwanda, les travaux qui devaient mettre sur pied le mécanisme de vérification élargie ad hoc, qui devait, à son époque, dans sa constitution, intégrer des hauts officiers angolais qui, dans une certaine mesure, devaient aussi bénéficier des moyens, parce qu'il s'agit aussi de cela. C'est bien d'avoir des initiatives, des vérifications sur les violations des cessez-le-feu, mais avoir des moyens, c'est-à-dire technologie, à pouvoir documenter et savoir. Par exemple, vous vous souviendrez un peu plus loin, lorsqu'on avait imposé cette trêve humanitaire, le lendemain de cette trêve humanitaire, pour la première fois, on avait remarqué qu'il y avait un bâtiment missile sol-air dans le territoire de Rutshuru, et c'était grâce aux moyens de l'armée française en collaboration avec la MONUSCO que cela a été documenté, et ce qui a permis de plus en plus à mettre le Rwanda devant ses responsabilités. Pour revenir sur Rubavu, c'est dans ce même cadre-là que l'on signait le CONOPS qui aujourd'hui sur lequel aujourd'hui repose l'accord de Washington. On est parti de cette configuration-là qui présentait beaucoup plus de chances vers une configuration qui, lorsque vous regardez vu ce qui a été signé le 2 février, le terme de référence qui désigne plus ou moins la façon dont devrait être constitué ce mécanisme de vérification, on parle de parties au conflit et des pays au conflit. En quoi est-ce que cela change la situation qui a toujours été là?
Merci.
À chaque violation de cessez-le-feu, vous verrez qu'il y a un communiqué du M23 qui accuse les FARDC, et peu après, vous allez voir les FARDC qui sortent aussi un communiqué, ou soit à l'inverse. Merci. Je pense que c'est tout cela. On ne devrait pas avoir à s'engager sur des compromis dont on sait au préalable qu'ils nous sont défavorables, pour demain, après-demain, encore se plaindre. Pourquoi Merci. Avoir signé ce CONOPS? Pourquoi avoir laissé le mécanisme de vérification élargie ad hoc? Pourquoi avoir signé l'accord de Washington sur base d'un document de 2024,
Merci,
alors que la réalité de 2025, lorsqu'on signait, était de loin différent sur le terrain.
Merci, nous tendons vers la fin de cette émission. Honorable Willy Michiki, vous allez conclure. Hein. Et maintenant que c'est le fait qui a été proposé par le président angolais n'a pas été respecté, vous avez dit qu'il n'a pas été respecté parce que il a été mal négocié, d'autant plus qu'on n'a pas, n'est-ce pas, associé les Ouazalendo, n'est-ce pas, dans cette démarche. Et comment vous entrevoyez la suite de la situation sur le terrain, maintenant que le feu n'a pas été respecté?
Oui, comme je l'ai dit ici, il est tout à fait évident, lorsque les VDP n'ont pas été associés, ils ne connaissent même pas. Moi, je vous dis que j'ai reçu plusieurs appels de commandants VDP. Comment allons-nous nous comporter? Quel est le contenu de cet accord de cessez le feu? Quelles sont les dispositions? On doit faire quoi? Nous avons reculé, nous avons gardé. Aucune réponse. Jusqu'à ce jour, je vous l'ai dit, et le gouvernement.
Comment vous entrevoyez la suite de la situation?
La suite, nous croyons sincèrement que tout cessez le feu qui ne pourrait pas prendre en compte le respect des engagements pris, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, que ce soit à Luanda, on ne pourra jamais observer les véritables. Il faut que les Rwandais, je dis bien, il n'existe pas de rébellion en RDC, il existe une agression. Aussi longtemps que les Rwandais n'aura pas accepté de respecter les différentes résolutions, notamment les retraits de ces troupes du territoire national, il n'y aura jamais, alors jamais, et c'est le fait. Et nous, Ouazalendo, nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous puissions récupérer tout l'espace occupé par les troupes rebelles, les troupes d'agression, donc les troupes rwandaises aujourd'hui. C'est évident. Et je voudrais citer, en rappelant aux uns aux autres, que les VDP ne sont pas une force supplétive
du gouvernement de la République. Nous avons été là depuis, ça fait 32 ans que ce mouvement a commencé à Walikale, sous le nom de Katuku, devenu Maïmaï Wazalendo aujourd'hui. Ce gouvernement n'existait pas, même cette armée n'existait pas. Donc nous n'aurons que cesser le fait lorsque toutes les parties en conflit seront
accusées. On a compris. Merci Augustin Bissimoi. Vos recommandations, n'est-ce pas, pour que la paix puisse revenir finalement dans la partie est du pays.
Bon, d'abord, avant d'y arriver,
on n'a pas le temps,
hein, pas le temps malheureusement, mais l'honorable devrait nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle réserviste désormais. Parce que j'entends sincèrement qu'il a tendance à ne pas reconnaître que désormais, il y a ce qu'on appelle réserviste.
Une minute.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Sincèrement, nous avons toujours dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Malheureusement, les amis ne comprennent pas, ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont en train de... Au fait, on ne met pas l'orgueil lorsque la position interne ne vous met pas, n'est-ce pas, en position de force. Vous savez, il y a toujours deux éléments qu'il faut retenir. Lorsqu'on ne sait pas, donc il y a la voie d'imposer la paix par la force. Il y a aussi, lorsqu'on ne sait pas l'imposer par la force, il faut l'obtenir par des négociations. Maintenant, ils ne veulent ni la paix imposée, ni la paix négociée.
Il s'agit de qui?
Dans les gouvernements. Les gouvernements ne veulent ni la paix imposée, ni la paix négociée. Et là, nous posons des questions. Il veut quoi exactement? Est-ce qu'il est dans la voie de faciliter la balkanisation? J'ai vu un aéroport international réouvrir. N'est-ce pas, réouvert? Et donc, à ce niveau-là, je me pose des questions. Mais comment un gouvernement responsable accepte qu'on puisse réouvrir un aéroport international dans une entité qui n'est pas sous son contrôle? J'ai vu un envoyé spécial, un envoyé de l'Union européenne.
Il y a cette situation humanitaire qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas?
Je suis d'accord avec vous.
Pendant que vous n'est-ce pas de débattre sur des questions politiques, il y a des populations qui meurent tous les jours.
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, mais j'ai vu comment il passe par Kinshasa, reçu par le président de la République. Il va au Burundi, reçu par le président burundais. Il va au Rwanda, reçu par le président rwandais. Il va à Goma, reçu par Corneille Nangaa. Est-ce que les gens sont en train de comprendre la dimension dans laquelle on nous amène?
Merci. Henri Pacifique Mayala, votre mot de la fin.
Oui, en conclusion, moi, je dirais qu'il faudrait nécessairement, si le gouvernement veut récupérer sa position initiale, celle où le M23 n'a pas à être le seul interlocuteur face à lui, ce qui est le cas et qui avantage aujourd'hui la rébellion. L'une issue, c'est à travers ce dialogue qui aiderait encore à consolider la conscience interne, à ramener tout le monde autour de la table, parce qu'après, comme je le disais, la crise du M23, oui, c'est un problème, mais souvenez-vous qu'il y a l'IF, qu'il y a Codeco, qu'il y a la CRP, et tout cela, ce sont des problèmes sécuritaires, au-delà desquels il y a aussi la crise politique. Donc, essayer de voir le problème, la grande image, le problème dans son entièreté, afin de pouvoir y apporter des solutions qui seront plus durables.
Merci, Willy Mouchik, vous avez demandé la parole, juste 40 secondes.
La RADE ne contrôle que 20% de Wazalendo. Les 80% ne sont pas sous le contrôle de la réserve de la RADE. Donc c'est une précision importante. Et merci. C'est ça qui se pose même le problème, puisque les moyens que le gouvernement donne, il les donne à la RADE et non Wazalendo. Donc 80% de Wazalendo sont pris en charge par la population et nous, les contribuables.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Willy Mouchiké, Monsieur Augustin Bissimoi et Monsieur Henri Pacifique Mayala. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbou qui l'a réalisé, et à Sylvain Baragouer qui était à la technique, et aussi à Dieudonné Nyangasa qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capi.